Avant de trouver ma place dans l'engagement avec mes différents projets, une question m'obstinait. Comment faire de mon métier un vecteur de transition sociétale? Comment avoir un impact et faire ma part au quotidien? Si vous écoutez Nouvel Oeil, vous vous posez certainement aussi ces questions-là. Et si j'ai choisi la Green Management School pour soutenir mon podcast, c'est parce que ça peut réellement vous aider à vous y retrouver. Se former au métier de la transition écologique, ce n'était pas si accessible il y a quelques années, mais ça l'est aujourd'hui. Ça l'est tellement que l'on ne sait plus qui croire, quelle formation entreprendre, ni ce que ça vaut. Alors j'ai fait les recherches pour vous, et j'ai trouvé l'école que j'aurais tant aimé faire il y a quelques années, quand j'étais paumée. Des cours approfondis sur le climat, la biodiversité, l'agronomie, la géopolitique, mais aussi sur les modèles économiques vertueux. Le tout dispensé par des spécialistes et des personnalités inspirantes. Créer un autre lendemain que celui qui s'annonce, c'est leur mantra. Et derrière cette idée, la mission de Green Management School est de former de nouveaux managers capables de transformer les entreprises et les organisations de l'intérieur. Toutes les informations sont en description. Merci à Green Management School de croire en Nouvel Oeil en soutenant cette saison de podcast. Tout de suite, place à un nouvel épisode. Hello, je suis Victoria et j'ai 24 ans. Chaque semaine, j'embarque mon micro jeune et je pars à la rencontre de personnes inspirantes pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies, dans un monde où l'on se cherche et où on questionne notre avenir. J'espère qu'écouter le parcours et les conseils de ces personnes qui ont rêvé et osé faire de leur rêve une réalité t'aidera toi aussi à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Alors je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle. Pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es, pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser.
On a envie d'avoir un engagement, on a envie de donner quelque chose à la société, de donner quelque chose à la planète. Et en fait, je pense que ce quelque chose, il ne s'invente pas. Il doit être authentique, il doit être profond, on doit l'avoir au fond de nous. Et une fois qu'on l'a, ben, il ne faut pas le lâcher.
Il suit les cycles de l'eau, la neige en hiver, les vagues en été. Alors oui, il est multiple champion du monde de snowboard. Il est souvent en l'air avec son parapente ou en glisse sur une vague. Oui, il a eu de jolies médailles, des coupes du monde et des trophées. Pourtant, son humilité prend le dessus sur les décorations. Il n'en parle pas quand on le rencontre. Si on ne le sait pas, il parle du reste. De ce qui lui importe vraiment. Des glaces qui fondent dans les Pyrénées, de son terrain de jeu qui est aujourd'hui menacé. Ce terrain de jeu, c'est la nature, et tenter de la préserver vaut pour lui bien plus que toutes les médailles du monde. À 10 ans, Mathieu Crépel était déjà sous le feu des projecteurs, en même temps que sous le froid du Groenland, pour vivre sa passion. Cette passion qui fait aujourd'hui ses journées, et ce Groenland qui lui permet de rester enfant, même à 38 ans. Comment on grandit quand à 10 ans, nos rêves sont déjà accomplis? Comment le sport en compétition peut être un levier pour la découverte de soi? Comment on se sent quand la nature qui nous a vus grandir disparaît aujourd'hui sous nos yeux? Avec Mathieu sur Nouvel Oeil, on parle de hasard, de compétition et d'ennui. J'espère que cette écoute te donnera l'envie de suivre les cycles de l'eau.
1, 2, 1, 2, est-ce que tu m'entends?
Je t'entends très bien, les deux sont connectés, c'est bon.
Le frigo s'est même arrêté.
C'est vrai?
Ouais, non, il s'est arrêté.
Incroyable.
Peut-être des phases.
Ah oui, c'est vrai. Bon, plus de frigo, plus rien. Eh ben écoute, on est prêts. C'est parti. Salut Mathieu.
Salut Victoria.
Trop heureuse de faire cette petite interview avec toi.
Eh bien, moi aussi, très honorée.
On se connaît déjà.
Ouais.
Comment tu vas?
Je vais bien.
Je vais sous très le soleil.
Bien. Sous le soleil du Pays Basque, avec une nuit pas méga méga reposante, avec petit Jules qui fait encore des siennes, mais qui a 4 mois et demi et qui nous régale de bonheur tous les jours.
Et la qui a changé ta vie.
Et qui a changé ma vie, ouais.
Tu trouves encore le temps d'aller sur ton snow et sur tes surfs. À quand remonte ta dernière session surf?
Session de surf hier soir. Magnifique session de surf, coucher de soleil incroyable devant la maison. Voilà, c'est la joie. Et snowboard pas plus tard que jeudi, donc il y a 4 jours. Voilà, c'est ça le bonheur de vivre au Pays Basque et au gré du rythme de l'eau, des montagnes à l'océan.
Et de pouvoir vivre de ta passion, puisque
ça.
Tu es multiple champion du monde de snowboard, qui est ta passion première, mais tu es surtout un amoureux des grands espaces. avec lesquels tu joues sous plusieurs formes, donc le surf, parapente, tu as fait la Transat Jacques Vabre en 2021 avec Stan Turé. Et au-delà de tout ça, tu cherches aussi à sensibiliser à la dégradation de nos terrains de jeu en réalisant des documentaires notamment, dont un que tu as tourné cet hiver sur la disparition des glaciers dans les Pyrénées. Tu nous disais qu'il allait sortir en avril.
C'est ça.
Et si tu es tant attaché à l'eau sous toutes ses formes, c'est parce que tu es né dans les montagnes et élevé par l'océan. C'était comment de grandir avec le cycle de l'eau, Mathieu ?
Alors ça, je dois dire que je dois remercier évidemment avant tout mes parents de m'avoir offert cette possibilité-là, m'avoir offert ce rythme de vie.
Tu es né à Tarbes.
Je suis né à Tarbes, ouais, qui est au pied des Pyrénées, devant la chaîne des Pyrénées, au pied du Pic du Midi. Et on vivait au gré des saisons, c'est-à-dire l'hiver en montagne et l'été sur la côte basque-hollandaise. La conscientisation que c'était le cycle de l'eau et tout ça, c'est venu un peu plus tard, mais c'était, je pense qu'au début, c'était de façon purement basique et primaire de se sentir bien dans ses éléments, de jouer, de glisser. J'ai eu la chance de pas mal voyager au cours de ma carrière et j'ai découvert des lieux absolument fantastiques et des cultures super inspirantes. Mais il y a quelque chose qui me marquait, qui continue à me marquer aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois que je rentrais d'un voyage qui était exceptionnel, je me retrouvais ici, je me retrouvais soit sur la plage, soit dans les montagnes ou dans l'eau en train de regarder autour de moi et de me dire waouh, mais ce qu'on a dans le Pays Basque, dans le sud-ouest de la France, là, c'est quand même exceptionnel, quoi.
Avant de partir et de voyager, tu te rendais pas spécialement compte de la chance que tu pouvais avoir de vivre dans un tel environnement ?
Non, c'est clair.
C'était normal pour toi ?
C'est normal. C'était normal. J'ai été élevé comme ça, avec après, voilà, c'était non-stop, c'était de l'amusement en permanence et c'est vrai qu'on a ce biais un peu de se dire souvent. Si on voyage, si on va à l'autre bout du monde, bah ça rend la chose exceptionnelle. Il faut aller voir ce qui se passe à l'autre bout du monde. Après voilà, on en revient un petit peu parce qu'il faut revenir à une vie un peu plus sobre. Mais c'est facile de le dire quand on a beaucoup voyagé. Mais le voyage, ça apporte aussi énormément. Hein. Le voyage, c'est une ouverture sur le monde, sur les cultures, sur c'est une découverte de soi-même aussi. Mais on a moins conscience de ce qu'on a chez soi et c'est vrai qu'on a tendance à vouloir plus aller découvrir le lointain que découvrir chez soi. Il y a plein de choses que je découvre dans les Pyrénées ou au Pays Basque sur le tard que j'aurais pu découvrir plus tôt en fait. Et non, j'ai d'abord été au Japon, en Alaska ou des choses comme ça.
Même au Groenland dès tes 10 ans, on va en reparler. Tu as découvert le snowboard à 7 ans et tu explores depuis la montagne différemment. En quoi le snow, ça t'a aidé à voir les montagnes d'un nouvel œil ?
Petit clin d'œil.
Ouais, carrément, il fallait là.
Il fallait, c'était obligatoire. En fait, je pense que chaque passionné de montagne ou de mer ou de rivière, enfin de d'éléments naturels, a une vision propre en fonction de sa sensibilité, de la manière dont il la pratique aussi, que ce soit par la marche, que ce soit par le snowboard, que ce soit par le surf, par la voile, par différentes activités. Moi, ce qui s'est passé, en fait, j'ai grandi quand j'ai commencé la montagne. Enfin, je suis né quasiment en montagne parce que je suis né au mois d'octobre et mes parents étaient moniteurs de ski en station dans les Pyrénées. Et donc, dès le mois de décembre, j'étais en station. À cette époque-là, c'était 1984. Le snowboard dans les Pyrénées, enfin même en France, n'existait quasiment pas. Donc, mes parents m'ont mis sur des skis tout petits. À peine je savais marcher, j'étais sur des patinettes en train de glisser. Donc, ça, c'était déjà incroyable. Et le ski, c'était principalement du ski de piste.
Ouais.
Donc voilà, le ski se développait assez fortement par les stations. On était finalement dans un environnement immense avec une infinité de possibilités, mais on était restreint à la piste. Et ça, je pense que assez petit, sans forcément en avoir conscience, ça m'a assez vite brimé, ça m'a un peu enfermé dans une case. Et quelques années plus tard, grâce au snowboard, je me suis rendu compte que la montagne, c'était pas juste les pistes et ce champ de vision un peu restreint, mais c'était toute la montagne. Cette ouverture d'esprit d'aller chercher ailleurs, parce que le snowboard, c'est un outil qui a été inventé plutôt pour aller dans la poudreuse, donc dans le hors-piste. Mmh. Et donc, de suite, ça nous est sortir du cadre, quoi. C'était à la fois purement physique, mais c'était aussi culturel. C'était une contre-culture complète par rapport au ski qui était assez rigide, assez fermé. Le ski de haut niveau, c'est du slalom, c'est faut aller à droite, à gauche, faut un chronomètre, faut voilà. C'est alors que le snowboard, il y a un aspect
d'émancipation
beaucoup plus
aussi,
libre, ouais,
de liberté.
Et c'est ça. Et donc je me suis retrouvé complètement là-dedans en fait.
Et t'es tombé accro.
Et je suis tombé complètement accro dès la deuxième saison. Je pense que j'ai arrêté le ski et puis ensuite c'était que du snowboard. Après le snowboard, j'ai aussi fait des compétitions, je suis aussi rentré dans une case parce que ça me plaisait, ça me permettait de me découvrir moi-même en tant que compétiteur. Mais ce que je trouvais intéressant dans la compétition, c'était de me challenger pour essayer de devenir meilleur, pas forcément que les autres, mais devenir meilleur moi-même, à chaque fois progresser.
Mais c'est très jeune que tu es tombé finalement dans cette compétition et tu es devenu la mascotte à faire snow, surf, ski. Et avant tes 10 ans, tu étais déjà très médiatisé. Est-ce que c'était trop tôt ?
Trop tôt, je sais pas, parce que je me dis que là aujourd'hui j'ai 38 ans et que je continue à avoir la chance de vivre cette vie-là. Donc c'est que je suis encore passionné. Enfin, je sais pas que c'est que je suis vraiment passionné. C'est vraiment.
Et ça se voit.
Donc non. Après oui, c'est sûr qu'il y a eu un. Dans le milieu de la glisse, la famille a été un peu critiquée parce que mes parents étaient très impliqués, m'ont donné les clés et m'ont donné les cartes pour que je réussisse et pour que je m'épanouisse. Et en fait, ils voyaient que ça marchait, que moi je m'éclatais, donc ils continuaient à m'aider, à me pousser. D'un point de vue extérieur, ça pouvait paraître trop. Moi, je l'ai jamais ressenti comme ça, en fait. J'ai jamais ressenti de pression. Enfin, si, il y a une certaine pression de, ouais, si, un peu de réussite, de bien faire, le regard. C'est sûr que quand on fait du sport, quand on fait des, mais c'est pas que dans le sport. Je pense que ça peut être dans la musique, ça peut être dans toutes les disciplines où, en fait, il y a une approbation un petit peu du public. Où là, forcément, bah, c'est la pression. Et souvent, c'est pas forcément la pression de l'entourage ou du public, mais c'est la pression qu'on se met soi-même.
À soi-même.
Et c'est celle-là qui est la plus dure à gérer. Et encore aujourd'hui, j'arrive pas à m'en détacher.
Ah oui. Tu travailles encore.
Il faudrait que j'y travaille. Il faudrait que j'y travaille. Et j'ai même l'impression qu'elle est de plus en plus présente. C'est très paradoxal.
Est-ce que c'est un rapport vraiment à toi, fondamentalement, qui tu es, quels objectifs tu veux te mettre, ou aussi un petit peu du regard des autres, de choses que t'aimerais prouver?
C'est les deux, ouais, complètement. C'est moi, aller me dire que j'ai, dans quelques années, me dire ouais, j'aurais été au bout de mon potentiel, au bout de mes idées, au bout de mes convictions, puis ouais, de rendre un peu fier les gens qui m'accompagnent et qui m'aident dans cette quête là donc c'est une double pression,
ouais, surtout quand on commence aussi jeune, où on se dit ouais, déjà à 10 ans j'ai rendu tellement fier mes proches que à 38 ans les faire encore
ça.
Plus
c'est peut-être ça aussi, ouais, c'est de faire durer en fait ça, et puis c'est aussi cette vie qui est exceptionnelle que je m'autorise et qu'on m'autorise encore à vivre. Si quand j'avais 20 ans, on m'aurait dit à 38 ans, tu continueras à vivre de ta passion, j'aurais pas cru, jamais de la vie. Et je m'étais dit je vais évoluer, peut-être à continuer dans le milieu de la glisse, mais peut-être avec un job de bureau un peu plus classique. J'avais quelques idées, mais je savais pas, je me doutais pas un instant que j'allais pouvoir continuer à vivre comme ça, quoi.
C'était quoi? C'était un manque de confiance, ou le fait qu'on te dise que les places sont très prisées et qu'il y en a peu?
Ouais, c'est c'est pas un manque de confiance, c'était plus de se dire, que quand tu es sportif de haut niveau, il arrive un moment où voilà, il faut partir à la retraite, quoi.
Ça tourne.
Et ça tourne. Ouais, exactement, ça tourne. Il faut laisser la place aux jeunes. Et en fait, c'est ça qui est particulier avec les sports de glisse, qui sont des sports de nature, c'est que en fait, on ne vit pas que à travers la compétition. C'est-à-dire que je vais prendre l'exemple peut-être des sports majeurs, du foot ou du tennis. C'est difficile. C'est des sports qui n'existent que par les tournois, que par les compétitions, ou après on devient entraîneur, ou on devient éducateur, ou des choses comme ça. Mais la finalité, c'est quand même de faire des matchs, de faire des confrontations et tout. Nous, il y a un aspect compétition, mais il y a tout un aspect image aussi. Mmh. Et ça qui fait partie de justement la culture du snowboard, du freeride et tout ça, c'est de mettre en lumière, de mettre en image ce qu'on fait, les voyages, les rencontres, choses comme ça. Et ce côté-là, il a toujours été super présent. Et en fait, il m'a permis à moi de me réinventer en quelque sorte et d'évoluer. Et
par donc, le biais des documentaires.
Par le biais d'abord des vidéos où je travaillais avec des boîtes de prod qui étaient déjà existantes, qui étaient dans le monde vraiment du snowboard. Et puis après, de me dire, bah, moi, j'ai envie d'essayer de raconter mes propres histoires ou l'histoire des gens que je rencontre ou et donc ça permet une évolution quasi infinie.
Et c'est une façon de sensibiliser aussi le grand public à ces espaces qui peut-être peuvent leur paraître très lointains.
C'est ça, c'est une porte d'entrée pour transmettre des messages, je pense. Et c'est là où c'est difficile aussi de il y a une difficulté dans la prise de parole. Et dans le fait de se sentir légitime dans cette prise de parole, on en revient un peu à la pression de tout à l'heure. C'est vrai que ce côté légitimité de prendre la parole sur un sujet bien précis, bah il est toujours particulier. Si on parle de sensibilisation à l'environnement, aux grands espaces, à la nature, au cycle de l'eau. Ben moi, ma seule expertise, c'est d'avoir vécu ça depuis mon plus jeune âge, mais je suis pas scientifique, je suis pas philosophe, je suis pas...
Non, tu vois voilà. Simplement physiquement le terrain de jeu changer.
C'est ça, ouais, je vois ce qui se passe et j'ai une volonté de partager. Et en même temps, aujourd'hui, je fais ça de façon beaucoup plus simple, on va dire, et un peu plus sobre, mais j'ai pris l'avion quand j'étais sur le Tour Pro. Donc voilà, après c'était il y a 15 ans, 20 ans, on n'avait pas la connaissance ou en tout cas elle n'était pas aussi répandue qu'elle ne l'est aujourd'hui, mais voilà, c'est difficile pour moi de dire OK, j'ai fait ça. Maintenant, je vis plus sobrement, mais la nouvelle génération, attention, faites plus ça, faites plus ce qu'on a fait, quoi. Enfin, je me sentirais complètement à côté de mes pompes si je disais ça, quoi. C'est pas possible. Donc non, ce que je m'attache à faire, ce que j'essaie vraiment de faire, ce qui est pas évident, c'est déjà de ne pas donner de leçons, de pas dire il faut pas. C'est on fait ce qu'on peut avec nos propres convictions. Et puis voilà, et donc je pense que ces pratiques de sport outdoor, de sport de nature, de montagne, d'océan, et à travers les documentaires que je fais, bah c'est simplement une porte d'entrée pour essayer d'éveiller les consciences.
C'est une sensibilité que tu essaies d'éveiller.
C'est une sensibilité, ouais, mais et puis après il y a le côté, c'est important de continuer à rêver aussi.
Enfin, et il y a autre chose d'ailleurs que tu tiens à transmettre, c'est l'importance de rester un enfant. Et dans les classes que tu rencontres, tu dis aux élèves, ne grandissez pas trop. Pourquoi c'est important de rester enfant?
Alors ça, c'est un conseil que j'avais eu d'un prof de français en sixième.
Ouais. Et c'est un très beau conseil.
Je me souviens, c'était Monsieur Sterna, qui était pas mon prof favori parce qu'il m'avait enfermé dans la classe à la fin du cours.
Parce que tu bougeais trop?
Je sais pas, je me souviens plus du tout, mais je me souviens qu'à 17h, il m'avait enfermé dans la classe, il était revenu une heure plus tard pour réouvrir. Pourtant, j'ai pas souvenir d'avoir été un élève particulièrement agité. Je devais l'être un peu de temps en temps, mais je savais qu'il y avait une règle avec ma mère, c'était tu fais le minimum syndical à l'école, je te laisse tranquille pour tout le reste. Donc je savais que c'était ça, j'ai toujours fait ma scolarité comme ça, donc je faisais pas trop de vagues à l'école et puis je m'en sortais bien, le week-end je pouvais aller à la montagne.
Joli jeu de mots, le vague, mais... vague à l'école.
Et donc ce monsieur nous avait transmis ça. Je me souviens absolument pas des règles de grammaire qu'il a pu nous enseigner, mais ça m'avait marqué, je sais pas pourquoi. C'est juste qu'en fait, quand on est enfant, on a une sorte de naïveté, d'émerveillement qui fait que on va s'extasier devant tout et tout va être sujet à émerveillement, à jeu aussi. Et une des règles de l'adulte, du passage adulte, c'est que on n'a plus le droit de jouer. Enfin, on doit, enfin, ça devient, il faut être sérieux, il faut se cacher un peu pour jouer, il faut, ouais, c'est, et que, ben, non, la vie, enfin, on a entre, en moyenne, 80 ans, sur cette terre, 80 ans à vivre, avec, des contraintes, d'âge, de société, de culture, de financière, enfin voilà, c'est tout un environnement qui impose certaines règles. Ben quand on est enfant, tout ce qu'on a envie de faire, c'est de s'affranchir des règles. Et ça, c'est pas mal aussi de le faire avec en allant toucher un peu les limites, mais sans forcément trop les franchir. De temps en temps, il faut. Mais
tu c'est vas de avoir jouer tout ça avec petit Jules.
Ouais, ça je vais
jouer avec.
Peut-être que dans quelques années, j'aurai un autre discours. mais non, c'est clairement quelque chose que je veux lui inculquer. C'est des valeurs sur lesquelles, en plus, avec Mathilde, ma chérie, on se retrouve beaucoup. Donc ça c'est cool.
Mathilde qui a aussi été invitée sur ce podcast, Mathilde de Police. Je crois que c'est l'épisode 14. Je vérifierai. Je le mettrai dans les notes.
Et donc de se dire rester enfant le plus longtemps possible, ça permet juste en fait d'avoir un petit peu de recul quand on est dans des situations un peu plus compliquées de vie ou et voilà, les contraintes économiques, financières, la pression du boulot, la pression de plein de choses, ça permet de hop, reculer un peu et de se dire, en fait, qu'est-ce que j'aurais fait dans ces situations-là quand j'étais enfant?
Et avoir réussi à faire de ta passion un métier, c'est une façon pour toi de rester un enfant?
Ouais, je pense. C'est ce qui m'anime, en tout cas, au quotidien, ouais. Et la chance que j'ai aujourd'hui, en fait, c'est avoir réussi à transformer ma passion en métier, c'est... final, c'est de réussir à vivre mes rêves d'enfant avec des moyens d'adulte.
Très beau.
Et ça, c'est une chance, quoi.
Mmh. Et toi qui nous disais que la compétition, c'était aussi quelque chose, un rapport avec toi-même que tu cultivais, comment est-ce que tu trouves l'équilibre pour effectivement faire aussi des pratiques qui soient personnelles pour toi, que ce soit le surf, le snow, sans penser performance?
Ça, je m'en suis assez détaché, en fait. Depuis que je fais plus de compétition, ouais. La compétition, en fait, c'est une échéance. On s'entraîne bien, on réussit une compétition, paf, le résultat est là. C'est blanc ou c'est noir, en gros, quoi. Tu gagnes ou tu fais un podium, c'est bien. Tu gagnes pas, bah, tu repars à l'entraînement et t'essayes de faire mieux à la prochaine compétition. Et ça permet de juger de façon très factuelle où tu en es, quoi. Et le travail que t'as accompli, est-ce qu'il a payé ou est-ce qu'il a pas payé? Depuis que je fais plus de la compétition, c'est beaucoup plus abstrait, tout ça. Et c'est beaucoup plus dans les sensations, en fait. Par exemple, hier soir, j'ai fait une session de surf. Les conditions étaient magiques, le coucher de soleil était incroyable. Et ben, je sais pas, c'était des conditions qui étaient idylliques pour faire une bonne session. Et j'ai eu des super sensations, j'ai eu des super vagues. Je me suis trouvé performant dans cet état d'esprit-là, quoi. Mais il y avait pas d'autre volonté que celle-là de passer un bon moment et d'essayer de prendre des bonnes vagues, et c'était tout. Et ça, je trouve que c'est assez cool, et la compétition me manque pas du tout. C'est ça qui est marrant, c'est que voilà, bon, ça fait 10 ans que j'ai arrêté. On aurait pu penser que quand on fait de la compétition pendant 20 ans, qu'on a grandi avec ça, j'ai été peut-être un des premiers, peut-être pas le premier, mais en tout cas parmi une certaine génération à se professionnaliser, à prendre le job de snowboarder comme du sport de haut niveau et pas comme simplement comme un état d'esprit et ce qu'il faut garder, est-ce qu'on s'attache à garder aussi. Et c'est vrai qu'on parle souvent dans les sports de glisse plutôt de lifestyle que de sport.
C'est vrai.
Tout ça pour dire que je pensais que la compétition allait me manquer, et en fait pas du tout.
Et en quoi cette compétition, elle t'a aidé à te construire personnellement?
Elle m'a fait comprendre qui j'étais, quelles étaient mes capacités, de travail. Parce que quand on parle de sport en particulier, je pense qu'encore une fois, c'est vrai dans la musique, dans l'écriture. On parle souvent de gens talentueux.
Mmh.
Ah, mais il est doué, il est talentueux. Et en fait, pour moi, le vrai talent, c'est la capacité qu'on a de travailler. Il y a des facilités au début peut-être, mais qui viennent de par l'éducation qu'on a eue, par l'engagement, enfin, ou en tout cas l'accompagnement que nos parents nous ont offert. Mais derrière, le véritable talent, c'est la capacité de travail que tu peux avoir, quoi.
Et de la discipline.
Et oui, et ça fait partie, le travail, c'est la discipline, c'est le sérieux, c'est de savoir quand être sérieux, quand décompresser aussi, parce que si tu décompresses jamais, tu t'exploses. Mais je pense que, ouais, il n'y a pas un sportif, il n'y a pas un artiste, il n'y a pas un écrivain qui a excellé dans son domaine, qui n'a pas travaillé avec acharnement à un moment ou à un autre. C'est impossible. J'en connais pas, en tout cas.
Le talent arrive avec la discipline. Il y a aussi les hasards qui ont une jolie place dans la vie. Et tu les connais bien, ces hasards. Tu as fait la Transat donc Jacques Vabre en 2021. Et cette traversée, elle n'était pas prévue. Elle est partie d'une rencontre humaine avec Roland Jourdain et Stan Turé. Les hasards, quelle place ils ont dans une vie?
Et alors, les hasards. Les hasards, ils apportent des expériences comme celle-ci. comme la Transat Jacques Vabre, comme tu dis, qui était donc une traversée de l'Atlantique en voilier, en duo. Moi, j'ai toujours aimé l'océan, mais en tant que côtier, les surfeurs sont pas des marins à proprement dit. On va pas vers le large. Nous, oui. Ce qui nous intéresse, c'est d'être près de la côte, là où les vagues cassent. Et donc, la haute mer, parfois, pour les surfeurs, c'est pas un élément qui est forcément
attrayant,
simple. Au contraire, en haute mer, là où la tendance à se lisser, l'océan s'aplatit un petit peu, c'est une immensité bleue, il y a plus de relief, hein, c'est particulier, hein, mais et ouais, cette rencontre, elle s'est faite à un moment où j'étais en train de monter un projet j'espère que je vais réussir à aboutir.
Le retour au Groenland.
qui devrait m'amener au Groenland d'ici peu. Que j'ai été présenté à Roland Jourdain, qui, pareil, est un grand navigateur. Et on déjeune chez Roland et Sophie. Et ils me disent, ah, bah, on a invité Stan. C'est un navigateur. Tu vas voir, il est passionné de snow, de montagne et tout. Je pense
Stan
que vous
Turet.
Allez bien matcher. Et Stan Turet. Et voilà. Et on s'est rencontrés au cours de ce repas. Le lendemain, j'étais avec mon pote Damien Castera aussi, ouais. Avec qui j'ai fait pas mal d'aventures. Le lendemain, Stan nous a emmené naviguer sur son bateau. Et j'étais quasiment jamais monté sur un bateau de course comme ça, et je me suis retrouvé là à la barre à dire waouh, c'est incroyable. Et quelques mois plus tard, Stan m'appelle, me dit bon, on reste évidemment en contact, on échange à fond sur plein de sujets, sur la Water Family, sur l'engagement, parce que Stan, c'est quelqu'un de très engagé aussi, oui. Qui se pose énormément de questions, qui se remet beaucoup en question sur sa pratique, sur la pratique de la course au large, sur la course à l'armement, j'ai envie de dire, mais c'est la course à la performance,
ouais.
Parce que la course au large, c'est de la Formule 1 des mers, quoi. Donc c'est utiliser du carbone, c'est construire de nouveaux bateaux presque chaque année parce que il y a des avancées technologiques et tout ça. Et Stan, en fait, ça, il est pas à l'aise avec ça,
oui,
il se remet en question. Voilà,
il y a un
certain paradoxe par rapport à ses convictions. Et donc on se retrouve beaucoup là-dessus, donc on échange énormément. Et puis quelques mois après, il me dit, Matt, ça te dit de venir faire la Jacques Vabre avec moi? Je dis, mais Stan, la Jacques Vabre, c'est 3 semaines en mer, jour et nuit. Moi, j'ai
jamais
aucune
navigué.
Connaissance, quoi. C'est un univers qui me passionne, mais déjà, un, j'ai pas le vocabulaire. Parce qu'il faut savoir, c'est que sur un bateau, il y a un vocabulaire de malade. on dit pas une corde, on dit un bout, enfin tout a une particularité,
ah ouais.
Et puis chaque bout, selon à quelle voile elle est accrochée, il a un nom différent, enfin donc c'est donc il y a énormément de choses
langage.
À apprendre.
Nouvelle
il me dit
langue.
T'inquiète pas, ça va le faire, on a un an pour se préparer, si t'es motivé, je dis ben bien sûr quoi, enfin, bien sûr. Et avant de, en fait j'ai une tendance à ne pas savoir dire non à ce genre de choses, c'est enfin voilà,
c'est la soif de l'inconnu aussi.
Soif de l'inconnu, de découverte. Vraiment d'apprendre en fait, j'aime profondément apprendre.
Ça te faisait peur?
Non, j'avais toute confiance en Stan. Bah parce que c'est une confiance qui s'est construite aussi. Même si je lui ai dit avant même qu'on se connaisse vraiment, c'est des feelings que t'as rapidement quoi. Tu vois, tu le vois dans les yeux, tu le vois dans le regard, tu le vois dans les gestes, tu vois, dès la première navigation qu'on a fait avec lui, j'ai vu qu'il connaît son bateau par cœur, c'est quelqu'un d'ultra sérieux, ultra méticuleux. C'est clair que je pense que cette expérience-là, j'aurais pas pu l'avoir avec quelqu'un d'autre que Stan, quoi.
Je crois que vous avez bouclé la course en 22 jours.
24 jours.
24 jours.
Ouais.
Donc. À être sur un bateau avec l'horizontalité devant toi, toi qui as quand même un petit fond d'hyperactivité, comment tu as vécu ce rapport à l'ennui que tu as certainement dû apprivoiser?
Le rapport à l'ennui, c'est un très très bon questionnement parce que justement c'est quelque chose que je ne sais pas faire et que je pense qu'on a tendance tous de façon générale à ne plus savoir faire. Que l'arrivée des petits outils qu'on appelle smartphones nous ont interdit. je pense que nos ancêtres, peut-être nos parents, nos grands-parents savaient beaucoup plus s'ennuyer ou en tout cas s'occuper différemment que nous, dès qu'on s'ennuie, on sort ce téléphone, machin et tout, et que là, bah, sur le bateau, on n'avait pas ça. Et c'était cool. parce que du coup je me suis ennuyé, j'ai écrit, j'ai observé, je me suis émerveillé. Justement, je te disais que globalement, quand t'es en haute mer, l'océan, bah c'est l'horizon, oui. C'est du bleu. Et ben en fait, c'est jamais pareil. Peut-être pas chaque minute, mais chaque heure, ça change. Parce que le vent est pas le même, parce que la luminosité est pas la même, parce que les fonds sont pas exactement les mêmes, parce que le vent n'attaque pas le bateau du même bord. Et donc, en fait, on se met à observer beaucoup plus en détail chaque élément, chaque instant. Et donc, on n'a plus du tout le même regard. Après, c'est parce qu'on est complètement déconnecté. On n'a plus justement toute cette pression sociale, tous ces mails qui tombent tous les jours et tout. Donc, ça nous permet d'avoir ce... Mais du coup, j'en ai tiré un enseignement,
ouais,
que je n'ai pas mis en place.
Ah, Mathieu.
Mais qu'il va falloir mettre
en place. Qu'est-ce que tu as appris?
Bah, c'est... Est-ce qu'il faut le faire au début, peut-être une fois par mois, une fois par semaine, une fois par jour? Ça peut être une fois par jour pendant 10 minutes ou pendant une journée par mois, où c'est, voilà, de tout couper et de s'autoriser à observer. Et c'est pas forcément en pleine, alors si on a la chance d'être en pleine nature, évidemment que c'est génial. Mmh. Mais je pense que pour les urbains, ça peut être aussi ça. Après, c'est un environnement qui est beaucoup plus cadré, peut-être un peu anxiogène. Mais moi, je sais que quand je dois aller à Paris pour un peu du boulot, des choses comme ça.
Présenter des films.
Justement, je m'autorise à, je le prends comme un voyage un peu exotique.
Carrément.
Et je me balade, je m'assois dans un parc et je regarde les gens, je prends du temps pour regarder. En fait, regarder les détails de tout ce qui nous entoure, quoi. Et je pense que ça va nous permettre. C'est aussi une manière de se connecter soi-même à, bah, soit à la nature, si c'est notre sensibilité. Mmh. Certains n'ont aucune sensibilité à la nature. Bah, c'est pas grave. Ils vont avoir une sensibilité à autre chose. Mais en tout cas, de se connecter à ce qui nous touche personnellement. Et de le faire peut-être 10 minutes par jour, devant un coucher de soleil, devant un arbre, devant un oiseau qui passe. J'en sais rien, mais.
Et c'était inconfortable pour toi au début de te retrouver face à ces temps de blanc, d'ennui sur le bateau et face à toi-même finalement?
Alors oui et non, parce qu'en fait ce qui s'est passé, c'est que je te parlais des 10 jours tampons qu'on a eu au Havre avant, oui, de partir, et moi ces 10 jours là ils ont été assez inconfortables pour moi, parce que justement j'étais pas dans mon univers, le bateau était quasiment prêt, ou alors c'était vraiment dans du détail et que moi je ne maîtrisais pas. Mmh. Normalement, quand je prépare une sortie, une expédition ou une compétition ou quoi, je suis dans mon élément, je connais, je sais ce qu'il faut que je fasse pour préparer mon matériel, je sais ce qu'il faut que je fasse pour que moi je sois préparé. Là, c'était tellement du détail que Stan le faisait avec son préparateur et que moi je regardais, j'observais, j'essayais de comprendre, mais j'avais l'impression d'être inutile.
Hors de ta zone de confort, en fait.
Ouais, hors de ma zone de confort. Et du coup, ce qui est très dur, c'est ça, ce sentiment de pas se sentir utile. Mmh. Et ça, je trouve que c'est, enfin, pour moi, c'est difficile. Et donc, j'avais qu'une hâte, c'était partir. Parce que je me suis dit, waouh, là, on va partir. Au moins, on va être tous les deux. Et là, si on a des galères, eh ben, il va falloir que je mette les mains dedans. Il va falloir qu'on gère les choses, parce que Stan va pas tout gérer de A à Z. Il va falloir, si c'est pas par de la connaissance spécifique, technique, il faudra que je sois un soutien mental, ou voilà, enfin, donc je savais que j'allais devenir utile. Et après, oui, il y a eu des moments lents, très lents, parce que ce qu'il faut savoir, c'est quand on part en mer comme ça, on n'a pas ce rapport là quand on est sur terre, sauf peut-être pour les gens qui sont insomniaques. Mais quand on dit qu'on est parti 24 jours, on a le référentiel terrestre que 24 jours, ouais, mais la nuit on dort, donc c'est, mais sauf que c'est 24 jours, 24 nuits. C'est pas pareil, quoi.
Et
c'est
oui,
c'est 48 fois 12 heures. Les 8-10 heures où on dort normalement, là on dort pas. Et la nuit, pour le coup, au début, on n'a pas cette capacité de regard, d'émerveillement, de... En fait, les sens en éveil sont plus du tout les mêmes. C'est beaucoup plus du ressenti, c'est moins du regard, c'est plus de l'écoute.
Tu mentalises moins? Tu rationalises moins?
Pas forcément. Moi, je suis pas quelqu'un qui mentalise et qui rationalise beaucoup. Je suis beaucoup dans action-réaction.
Ouais.
En fait, je ressens et je réagis en fonction. Je pense pas avoir trop besoin d'avoir d'avoir à conscientiser trop avant de faire. Mais non, c'est juste que c'est les sens, les sens sont plus les mêmes. Au lieu que ce soit vraiment la vue qui prenne le dessus et là c'est plus, c'est plus l'oreille qui vient. Donc les bruits sont beaucoup plus intenses. On a l'impression d'aller plus vite. On a l'impression, enfin, tout est décuplé, quoi.
Incroyable.
Et, ouais. Donc.
Et donc ça reste de la glisse, différente la glisse. Que celle du snow ou du surf. En quoi la glisse, c'est une philosophie de vie pour toi?
Ah, ça, je sais pas l'expliquer. J'ai déjà essayé de le faire, mais c'est juste, c'est un truc qui se passe dans mon corps, en fait. C'est une alchimie entre l'élément, entre l'outil, parce que, enfin, c'est des glisses, on a besoin d'outils. À chaque fois, il y a un snowboard, une planche de surf, ouais. Un bateau, un parapente. Mais ouais, c'est une alchimie entre cet outil, l'élément, mon corps et mon esprit. Il se passe un truc dans mon corps qui fait du bien, quoi.
Et que t'expliques pas, que tu ressens.
Ouais.
Mathieu, qu'est-ce que tu voudrais dire au petit Mathieu qui avait 10 ans et qui partait au Groenland?
Eh ben, je voudrais lui dire que j'ai hâte de le retrouver au Groenland parce que je suis en train de préparer un voyage retour là-bas. Merci d'avoir fait ce voyage, enfin d'avoir embrassé ce voyage, d'avoir été aussi émerveillé. Au Groenland, quand j'avais 10 ans, c'est là que j'étais le plus confronté à la beauté de ce que la planète pouvait nous offrir. Et je pense que mon engagement aujourd'hui, il se traduit à travers la sensibilisation autour du cycle de l'eau et tout ça. Mais en fait, ma vraie sensibilité, c'est à la beauté de, j'ai envie de dire nature, mais la nature, c'est tout et rien, quoi. C'est vraiment ce que nous offre la planète. Enfin, en tout cas, ce qui est endémique à la planète, ce qui est propre à la planète, quoi. Et voilà, j'arrive à m'extasier devant beaucoup de choses. J'ai des potes qui me charrient un peu, qui me disent « Ah, mais ça, c'est ton côté romantique. » À chaque fois, j'ai un pote avec qui on va surfer et tout. Je dis « Ah, oh, mais regarde, c'est incroyable, là, et tout. Ah, mais ça, c'est ton côté romantique. » Je dis « Non, c'est juste que, enfin, je sais pas, j'ai une sensibilité à la beauté de ce qui nous entoure. » Et je pense que ça s'est construit là-bas.
Ouais, et donc, ce même voyage qui t'a aussi peut-être sensibilisé à l'humanité, avec un grand H, et au mode de vie très sobre avec ces Groenlandais avec qui tu vivais.
Oui, alors là, je pense que pour le coup, tu vois, quand t'as 10 ans, tu prends pas forcément conscience de ça.
Oui.
Là, tu vis, tu ressens, tu t'emmagasines plein d'informations, plein de sensations que tu conscientises plus tard. Et justement, ce côté humaniste et ce côté, cette volonté de mieux comprendre ce peuple du Groenland, ben, elle s'est construite plus tard. Et c'est pour ça que ce voyage, j'ai envie de le faire aujourd'hui. Parce que je sais que je suis dans une phase de ma vie où j'ai cette volonté, enfin, c'est ce besoin vraiment d'aller à la rencontre de ce village-là. Aujourd'hui, c'est ça qui m'anime, c'est d'aller là-bas et de comprendre comment ce village-là, comment ces gens qui sont là-bas, qui avaient probablement 10 ans ou 12 ans quand j'y étais, qu'on a joué, qu'on s'est rencontrés, qu'on a croisé des regards, qu'on a échangé, qu'on a rigolé ensemble sans se connaître, sans avoir de culture, en ayant chacun notre propre culture, sans avoir une langue commune, et ben comment on a évolué chacun d'un côté dans un monde qui a fait du Groenland, qui se retrouve coincé entre des enjeux géopolitiques, sociaux,
conséquences du dérèglement climatique,
conséquences du dérèglement climatique,
tourisme aussi un peu,
tourisme aussi complètement, parce que développement du tourisme justement vers le Grand Nord,
ouais.
qui est moins rude climatiquement qu'avant, donc forcément,
et qui donc va encore plus menacer certains espaces qui
c'est
sont
un cercle
hyper
vicieux,
préservés,
évidemment, ouais, donc. Donc,
écoute,
ouais,
je te souhaite de faire ce petit documentaire et de retourner.
Je vais retrouver le petit Mathieu qui, parce qu'il y a une part de moi qui est restée là-bas et je pense qu'il va continuer à rester parce que ce voyage-là, il va être encore super fondateur dans une autre manière. Mais je suis convaincu que ce futur voyage, il va être énorme. Donc ouais, petit Mathieu blondiné avec ses petites taches de rousseur et sa coupe au bol là, il est là-bas.
Il est là-bas. Écoute, Mathieu, dernière petite question. La question signature du podcast. Quel conseil tu voudrais donner aux jeunes d'aujourd'hui? Alors, ne me dis pas rester des enfants, hein.
Non. ça, c'est la question, c'est la question fatidique.
Ouais.
Le conseil que je pourrais donner, en fait, c'est d'avancer avec ses convictions, d'être curieux du monde, d'être curieux des gens, d'être curieux de ce qui nous entoure, du coup de créer une sensibilité à certaines choses et d'être authentique à cette sensibilité en fait, et de ne pas se conformer à ce qu'on peut essayer de voilà, ce que le monde, la société nous impose. On est obligé de faire, enfin c'est difficile de se mettre en marge, enfin, ou alors vraiment on se met en marge, mais c'est difficile de se détourner totalement,
oui,
d'un certain cadre
radical.
Social, d'être radical. Mais je pense que voilà, grâce à une curiosité qu'on va construire en étant enfant, on va pouvoir construire derrière une sensibilité et se raccrocher à ça. Et en fait, en tant qu'adulte derrière, eh ben c'est pas rester garder son âme d'enfant, mais en fait c'est rester connecté à cet enfant-là et rester connecté à ce qui nous rend heureux, ce qui nous touche. On parle beaucoup d'engagement. Je pense que ta génération, enfin on est tous, même si on n'a pas tout à fait le même âge, on a quand même des sensibilités qui sont similaires. On a envie de se rendre utile. On parlait un peu d'utilité tout à l'heure. On a envie d'avoir un engagement. On a envie de donner quelque chose à la société, de donner quelque chose à la planète. Et en fait, je pense que ce quelque chose, il s'invente pas. Mmh. Il doit être authentique, il doit être profond, on doit l'avoir au fond de nous. Et une fois qu'on l'a, ben, il faut pas le lâcher, quoi.
Mmh, très beau. Merci beaucoup, Mathieu.
Avec plaisir. Merci à toi.
Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify, ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvel Œil. Sur le site internet www.nouveloeil-podcast.com, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.